Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Cube Radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, K.R. Kevin Raphaël.
Yeah!
Hein, t'as l'air relax, tu chill sur la musique des Antipodes.
Non, là, je viens de finir les fantastiques, mon cerveau est à moins 14 000 en ce moment. Là.
Puis habituellement, il est à combien?
Moins 12.
1000?
12.
Hey, on a quand même un gros show, mais avant d'aller dans les nouvelles...
Comment s'appelle notre Antipode Live? Juste Antipode Live?
Antipode, tu scoops, t'es dégueulasse. Je te déteste en ce moment. Les antipodes devant public.
Ah.
OK, ben on va en parler tantôt. Je dévoile pas tout de suite, mais sans restriction.
C'est laid comme titre, les antipodes devant public, c'est long en esti.
Ben c'est pas live, on n'est pas live.
Ben oui, on est live, on est en direct devant les gens.
On n'est pas en direct, le monde live pense qu'on est live sur YouTube ou live sur Facebook.
Mais non, mais quand tu parles à quelqu'un, t'es live. Là, je suis live devant toi, je suis live.
Ben non,
t'es pas... Antipode live.
Appelle ça comme tu veux, Kev.
Antipode live 3, c'est notre troisième.
C'est correct, c'est pas sur le c'est pas sur le graphique que je t'ai envoyé, mais c'est pas grave.
M'en fous.
Appelle-le comme ça,
Antipode live.
Ça te fait-tu plaisir de l'appeler comme ça?
Puis c'est à quelle heure?
Et là, je t'ai tout envoyé les infos.
C'est vrai, je les ai notés.
OK.
On continue à...
Sans restriction. Hey, c'est vraiment... As-tu vu, Fred? J'aurais dû avoir des enfants. J'ai des skills pour dire, ça te fait-tu plaisir? C'est-tu correct? Oui. Passons à un autre sujet.
As-tu pas de live 3?
Fuck. Vous voyez pas sa face en ce moment.
Non. Mais, bébé.
Mais c'est
non.
Un oui!
Non! Ah! Non!
C'est exactement ce que j'allais dire. Hein? Là, j'allais dire, c'est un gros bébé en ce moment. Sans restriction, Benoît Marion des Argonauts, champion de la Coupe Grey.
So, Ben est venu sur le pod.
C'est un Québécois, right?
C'est un Québécois, puis okay. J'ai coaché avec avec André Grasset, parce que lui, dans le fond, il avait été drafté par Montréal.
Ah, André coachait lui avec?
Non, don't do it. Non, mais dans le fond, il s'est fait drafter par les Alouettes, il s'est fait couper, il cherchait de quoi faire, fait qu'il est venu coacher avec moi, André Grasset, et c'est à c'est la journée d'une pratique qu'il s'est fait appeler pour aller jouer avec les Argonauts. Il arrive à Toronto, start le premier match, donc belle histoire à raconter. Gagne la Coupe Grey, et ça a pas été posté sur sans restriction encore, mais Brendan Gignac, on a sorti le podcast de Brendan Gignac aujourd'hui.
Okay,
so Brendan du Rockets de Laval. Rockets de Laval.
Rocket.
Puis on vient de finir Joshua Roy.
Donc
Joshua, ça va être la semaine prochaine. Puis Josh n'a pas la langue dans sa poche, disons.
Ça a bien été pour lui pourtant.
Non mais moi j'aime quand... Je pense que Josh a sacré plus que j'ai jamais sacré dans toute ma vie.
Mais c'est pas la première fois que Josh va sur le pod.
C'est la deuxième fois, mais la première fois, il était là 15 minutes parce qu'il se séparait avec Justin Thibault.
Ah oui.
Mais là, c'est le pod à lui. Okay. Puis il y avait vraiment du temps, puis on a vraiment eu du plaisir. Donc,
excellent, ça. Butch Bouchard en librairie, toujours.
Achetez-le, la huitième merveille du monde.
Non, c'est Butch Bouchard, le rock de Gibraltar. Colin, mauvaise personne aujourd'hui. Lui,
toi, t'es un Gibraltar, man.
Hein, Gibraltar.
Ben, c'est la même chose. Gildor Roy.
OK. Ton cerveau est vraiment à moins 14 000.
Yo, moi, là, Véro, elle m'a tué tantôt, là. elle m'a dit, c'est quoi ton moteur de recherche? Puis là, j'ai dit, yo, hurle.
Hein? De quoi tu parles? Hurle.
Ben, moi, dans ma tête, c'était comme ça qu'on l'appelait. Le URL.
C'est Google, ton moteur de recherche.
Là, j'ai dit, hurle. Tu vois, me regarder croche. Là, moi, je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? Là, ils ont commencé à me disrespect. Ben, yo, fuck that, man.
C'est sûr.
Commencé à me moquer de respect,
t'es
les gens.
T'es qui? T'es mon oncle Gaston, pis qui a 82 ans?
Yo, j'ai dit, hurle à la radio, man. Mon cerveau sert à rien.
À rien. T'as hurlé à la radio. Oh oui.
Yes. Ça, là, je te laisse.
Hey, la force de Montréal, à Rivière-du-Loup, et au Rocket de Laval, vendredi. Qui va être là? Quelles filles vont être là, si tu peux le dire?
Ils verront.
OK. Il y a des filles qui vont être là vendredi soir, au Rocket.
Rocket, vendredi, venez rencontrer les joueuses avant la partie et après la première période. Après ça, on fly. Fait que c'est votre seule chance. Par la suite, Rivière-du-Loup, on samedi joue samedi 15h. 15h, spécial cabane à sucre. On vous encourage tous à être habillés en cabane à sucre. Ça va être le fun. Il va avoir, ben là, je donne le scoop, mais on va avoir, oh, c'est moi. On va avoir un gros truck. Ben, c'était GM, mais c'était moi avant. On va avoir un gros
scoop, scoop, scoop.
Un scoop? Oh! On va avoir un gros truck. On va avoir une, comment t'appelles, une érablière.
Oui.
Qui va se pointer à Rivière-du-Loup.
Un food truck, là, genre.
Un food truck. Fait que tu vas pouvoir manger ta tire.
Oh, c'est
puis,
cool.
Puis rentrer en dedans. Puis donc,
samedi, la game est à.
Samedi, la game est à 15h, excusez-moi. Puis la game.
Samedi est à 15h, ouais. Dimanche est à
13h. Dimanche est à 13h. Puis.
Sans premier tech à Rivière-du-Loup. Premier tech. Je vais être là. Je vais être là, moi aussi.
Ça va être là. Moi, je vais être là. Puis, moi, je vous dis déjà samedi soir, moi, je fais le party, là.
On est quatrième, là, au classement.
Non,
là.
On a tombé 5. Connecticut jouait hier.
Ah.
Et aujourd'hui, ils reprennent les deux matchs contre Buffalo. Puis Buffalo, c'est de la calisse de marde.
Je comprends. Fait que là, ils ont devancé.
Ben là, ils nous devancent à cause qu'ils ont joué contre Buffalo. Mais on va jouer contre Buffalo, nous aussi. So, we good.
Bon.
We good.
Là, on joue contre la grosse équipe de Boston.
Ouais,
là.
Ouais, mais
Élie Giguère et les Pride de Boston.
Vous savez pas ce que j'ai fait.
OK.
Moi, tout ce que je peux dire, c'est demain, checker votre sel.
Demain?
Ça se peut que tu ailles apprendre un nouveau nom.
Oh, t'as signé quelqu'un?
Breaking news! Non, mais là.
GM Kev!
Là, j'ai dit. Là, j'ai dit. On peut pas arriver contre Boston comme ça.
Wow, OK? Oh, là, je suis excité.
Yeah.
Je vais ça être excité du. Est-ce que je connais le nom?
Je pense pas que tu connais le nom.
OK.
Mais cette fille-là a déjà joué dans la ligue.
OK.
Puis. Ben, en fait, cette fille-là jouait dans la ligue.
Oui.
Et non, parce que je pense que j'ai dit déjà comme si c'était du passé, mais elle jouait cette année. Là.
Ah, elle jouait cette année? Ouais, ah, t'as fait un échange?
Ben, regarde, je t'expliquerai.
Ben oui!
Yo, mon cerveau
est. GM Kev!
Mon cerveau est aussi dead à cause de ça, là.
Collé!
Cette fille-là a été la meilleure scoreur de son équipe l'année dernière.
Oh, OK, quand même.
Et cette fille-là, il y avait deux possibilités.
Une Québécoise ou pas une Québécoise?
Non, pas une Québécoise, mais une Canadienne. Il y avait deux possibilités.
Canadienne, évidemment.
Non.
Non, mais Montréal et Toronto, non? C'est pas
non,
ça?
Non, okay. Non. Il y avait. Ben, je peux pas le dire, c'est chier, c'est des négociations, mais une autre équipe très, très forte.
Oui. Là, fais attention, le GM Kev, faut qu'il soit compressé un peu.
Il y avait une autre équipe très, très forte, puis il y avait nous autres.
Okay.
Elle a choisi nous autres.
Parfait.
So.
Ah, j'ai hâte d'avoir les ramifications
de
ça.
Juste dire, c'est l'affaire le plus fou que j'ai fait de ma vie. Yo, pour vrai, la négociation, man. Puis là, il fallait que, tu sais, mettons, je savais l'autre équipe donnait quel montant d'argent.
Ouais.
Moi, je savais quel montant je pouvais donner. Là, j'essayais de jouer avec le cap. Là, j'étais comme, shit, man. Là, j'ai dit, si on fait telle affaire, on est bon. Là, j'ai appelé son agent, j'ai dit, yo, regarde, si on fait ça, on est bon. Est-ce qu'elle est down? Là, il l'appelle elle. Là, on est avec Manu, là, on stresse. Là, il rappelle, yo, vous êtes bon. Là, shit! Là, on fait, il faut qu'elle habite quelque part. On dit, oh shit! Fait que là, on a trouvé une place où qu'elle couche.
Ah, tu vas encore déménager quelqu'un?
Ben, on n'a pas vraiment le choix, là. On n'a pas vraiment le choix.
Donc, venez, tout ça pour dire de venir nous voir à Rivière-du-Loup cette fin de semaine, 21-22 janvier. Hey, je veux, Fred, prépare ta toune de célébration parce que la semaine dernière, vendredi, on a annoncé, TVA Sport a annoncé qu'on revenait en onde pour une sixième année avec la WWE Raw.
Hey!
Hey! Ben oui!
Hey!
Tu pensais-tu faire ça 6 ans?
Hey, non!
Sans farce, là, ça commence à. Les années s'accumulent, là.
Ben, pour vrai, je pensais pas être engagé à TVA Sport pendant 6 ans, là. Surtout, il y a eu une certaine période que je m'en allais, là. Puis je me suis dit, oh fuck that, là. Mais finalement, LP, c'est un bon monsieur pour moi.
Moi, je pense que tu m'as dit plus souvent que tu t'en allais de TVA Sport que de saison qu'on a à l'antenne de TVA Sport.
Il y a eu des. Mais c'est nice parce que.
Mais non, mais tu sais, je veux dire, c'est correct. Il y a toujours, tu sais, des.
Non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est nice parce que. Ils ont bien pris soin de moi au courant des dernières années, tu sais.
Oui,
ils ont reconnu des choses que je voulais qu'ils reconnaissent, puis j'apprécie beaucoup, puis de faire la lutte sixième année avec toi, c'est encore plus
le fun. Ben oui.
So, je suis très pumped, là.
Hey, j'ai un petit plug, j'ai un blog qui est sorti samedi dernier sur les 70 ans, puis c'est un peu en lien avec notre sixième année à TVA Sport, les 70 ans, samedi dernier, le 14 janvier, c'était les 70 ans du début.
Ça fait quand tu vas dire combien de fois?
70 fois. C'était les 70 ans du début de la lutte à Radio-Canada en direct du Forum de Montréal.
Oh, that's not
en 1953. La télé est arrivée en 52 et la lutte en direct du Forum est arrivée en le 14 janvier 53. Alors, j'ai fait même des recherches supplémentaires de ce que j'avais déjà dans mes archives. Puis je vous ai pondu un beau blog là-dessus. Donc, allez consulter ça. Un bel éphéméride. Et avant d'aller aux nouvelles, j'aimerais saluer Théo et son père Adam qui nous écoutent religieusement.
José?
En famille. Non, Théo, c'est son prénom, Théo, et non pas pour Théodore. Donc, Théo et son père Adam qui nous écoutent en famille religieusement.
Il y a quel âge Théo, là? J'ai des grossièretés, là.
Je sais pas quel âge qu'il y a. Mais il m'a écrit, j'ai répondu à Théo, et son père m'a écrit par la suite pour me dire qu'il était très content d'avoir eu une réponse de moi, puis que son père voulait me féliciter de mon professionnalisme, puis de prendre le temps de répondre aux gens, puis qu'il nous écoutait
Bro.
À chaque semaine. Donc, je voulais juste les
saluer
en nombre.
Je peux pas mettre cette affiche-là,
là. Pourquoi?
Ben, man, ça va être à tout petit. On verra pas qu'est-ce que t'as écrit.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Mettons là que je mets cette affiche-là pour le show, là.
Ça, c'est parfait pour partager sur les réseaux.
Oui, mais moi, je te parle pour le point de vente. Là. Je vais pas mettre cette affiche-là.
Pourquoi?
Parce que ça va être en tout petit. On verra pas d'écriture.
Ben non, mais toi, tu vas donner l'information en dessous, de toute façon. Fait que c'est correct.
Ben, ça va juste être des petites lignes qu'on voit rien. Ça va être laid.
Je comprends pas. On va en parler après.
Mais moi, je sais comment ça marche, moi.
Ben OK, mais si tu sais comment ça marche, fais-le, Kev.
Ben, c'est pour ça que je fais.
Parfait, ça. T'es-tu correct? Ouais. On peut-tu passer à un autre dossier? Merci. Je serais un excellent parent.
Tu m'enverras la photo.
Ou un professeur.
Tu m'enverras la photo.
Je sais pas quelle photo tu
m'enverras. Mais la photo que tu as faite, l'affiche LED.
Qu'est-ce que tu veux dire?
La photo de nous, là.
Ouais.
Tu me l'enverras.
Pourquoi tu veux juste celle-là?
Parce que je veux la mettre, parce que c'est la petite image. C'est la petite image. Pierre, fuck. Fred,
pourquoi
il comprend.
Tu l'appelles Pierre?
Hey, ce bout-là, il est vraiment bon à écouter, là.
OK. OK, OK, OK. Les nouvelles. Bon, on va reprendre un peu de sérieux parce que, bon, le monde de la lutte est en deuil. On a appris hier le décès du lutteur Jay Briscoe au jeune âge de 38 ans. Je vais vous donner les détails là que j'ai. Là, je sais pas s'il y a eu d'autres détails depuis la fin de l'après-midi, mais bon, Jay Briscoe était sur la route dans son camion avec ses deux filles âgées de 9 et 12 ans. Et puis, il était en direction est. Il y a un véhicule en sens inverse, donc direction ouest, une femme de 27 ans dans son camion, elle aussi. Puis pour une raison qu'on n'a pas encore, elle a changé de voie subitement et il y a eu un face-à-face entre les deux camions. À l'arrivée des secours, Jay Briscoe et la dame, la conductrice, étaient décédées. Les deux jeunes filles ont été admises à l'hôpital. La plus vieille se faisait opérer ce matin au dos et c'est sa mère, Ashley, donc l'épouse de Jay Briscoe, qui a partagé ça sur les réseaux sociaux en disant d'envoyer nos prières parce que ses jambes ne bougeaient plus. Et là, elle se faisait opérer au dos, donc c'est quand même une situation assez critique. La plus jeune a été shakée, mais serait relativement correcte. Là, elle va être correcte. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, mais malheureusement, ça a coûté la vie à Jay Briscoe. Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est la fatigue, une distraction? On n'a pas encore la raison du changement de voix. Jay Briscoe ne portait pas sa ceinture. La dame en question la portait. Donc, les deux sont décédés. Donc, je sais pas quoi en penser de ça. Mais en bout de ligne, c'est une tragédie qui est arrivée. Puis, tu sais, j'écrivais là-dessus pour Lutte.Québec, puis à un moment donné, je parlais juste des Briscoe, tu sais, parce que veux pas, tu peux pas parler de Jay sans parler de son frère, puis sans parler de l'équipe. Puis à un moment donné, j'ai comme réalisé, la mort de Jay, c'est également la mort de l'équipe. Ouais. Tu sais, on n'aura plus jamais cette équipe-là. C'est quoi tes souvenirs des
Briscoe Brothers? C'est incroyable parce que juste dans le podcast des Pots et des Fleurs, mon match of the year, je donnais énormément d'amour au Dog Collar match. Incroyable que ce soit, tu sais, le dernier, je pense que c'était le dernier match ou le dernier match mainstream, disons.
Ça, c'est clair.
C'était ce match-là. Je pense qu'il y avait des beaux plans pour eux avec AEW, mais au-delà de ça, c'est le fait qu'il y avait 38 ans, qu'il y avait deux enfants.
Trois enfants, en trois fait. Il y a un garçon qui était, oui, qui était à la maison, un garçon de 13 ans.
Trois enfants. Tu sais, je vois des vidéos de lui et ses filles qui dansent. T'sais, c'est plate, man. T'sais, tu vois les lutteurs qui disent des choses positives sur lui, sur sa personne, et non pas juste le lutteur qui est. On est en deuil, puis je pense qu'il faut prendre le temps de le vivre, puis de retourner regarder ses combats, oui, mais de juste lire aussi qu'est-ce que les autres lutteurs ont mis. Puis je trouvais ça beau que Booker sur le show a mentionné le décès à NXT.
Ils ont même fait un graphique.
Je trouvais ça beau que toutes les compagnies se sont mises ensemble. Ouais. Tu sais, c'était vraiment le monde de la lutte qui s'est mis ensemble pour, ouais, Briscoe, ça. Non,
et je pense qu'il y avait tellement de monde, c'est ça, c'est parce que, tu sais, même Triple H a écrit quelque chose sur Twitter, puis pour un gars qui a jamais travaillé pour la WWE, c'est quand même assez remarquable, mais il y a quand même tellement de monde au sein de la WWE qui l'ont connu, qui ont travaillé avec lui. Je pense que c'était la bonne chose à faire de la part de Triple H, puis j'y lève mon chapeau là-dessus. Ils ont eu un autre match la semaine suivante pour HOG, Hug, ça a été leur dernier, donc le FTR, ça a été l'avant-dernier match de Jay Briscoe. Moi, Jay Briscoe, écoute, les frères Briscoe, tu sais, c'est deux gars que je vois aller depuis 20 ans maintenant.
C'est fou, hein, 20
t'sais,
ans,
ils étaient là, ils ont commencé en 2000 pour CZW. Ouais. Ils étaient des adolescents quand ils ont commencé. Il y en a un qui avait 15 ans, l'autre en avait 16. Quand ils ont commencé à Ring of Honor, Jay était le plus vieux. Jay avait 18 ans, mais son frère Mark avait juste 17. Et comme la majorité des shows de Ring of Honor se passaient à Philadelphie, en Pennsylvanie, l'État de la Pennsylvanie permettait pas à des mineurs de lutter. Alors, Mark Briscoe pouvait pas lutter pour Ring of Honor. Alors, il accompagnait son frère. Mais ils ont lutté un contre l'autre à Boston à la fin 2002. Mark avait encore que 17 ans à l'époque, mais le Massachusetts avait des règles différentes. Et la première fois qu'ils ont lutté à Philadelphie, ça a été au premier anniversaire de la compagnie. Mark venait d'avoir 18 ans, puis ça a été Jay contre Mark. Et ensuite, ils ont recommencé à lutter en équipe. Et là, ils ont eu une run incroyable. Et puis... moi, je les ai évidemment connus en suivant A Ring of Honor. Puis comme j'ai été impliqué avec la promotion pendant des années comme promoteur ici local, mais je les suivais, tu sais, j'allais souvent les voir à l'extérieur, j'étais dans le vestiaire, j'ai eu souvent à les saluer. C'était pas des amis, mais c'était, je veux dire, des gens que j'ai côtoyés dans des vestiaires de lutte pendant des années, au point que lorsque je les ai vus à Dallas l'an dernier, lors du WrestleMania Weekend, ça faisait quelques années qu'on s'était pas croisés, et à ma grande surprise, ils m'ont reconnu. Mais c'était ce genre de personnes là, Jay, c'était puis Mark est pareil, c'était ce genre de personnes là qui c'est pas pour rien qu'il y a une vague d'amour en ce moment sur Jay Briscoe. C'était ce genre de personnes là. Même Arn Anderson a écrit quelque chose comme quoi je le connaissais pas, je pensais que c'était des gars un peu wild,
un peu redneck.
Quand je les ai rencontrés, j'ai vu toute la bonté qu'il y avait dans ces personnes là. Et
mais
puis
j'en avais parlé sur le podcast, moi c'est quand je les ai entendus à Busted Open, ils ont fait une entrevue, j'en avais parlé sur le podcast, j'avais dit, ma façon de voir ces gars-là a complètement changé. C'est juste deux dudes qui ont des poulets sur une ferme, qui avaient des poulets sur une ferme, qui aimaient chiller avec leur famille, man, puis que ça adonnait qu'ils faisaient des matchs de lutte, man, puis qu'ils chillaient au 7-Eleven avec les fans, puis qu'ils vivaient de la... Tu sais, c'était autant que autant qu'on pensait tellement de choses sur ces gars-là que quand tu pose vraiment les questions, c'est comme, c'est les gars les plus simples.
Ben oui.
C'est simple, simple, simple.
Puis c'est dommage, le tweet que Jay a déjà fait, qui lui a, dans un sens, barré les portes et de la WWE et AEW jusqu'à... Mais en fait, peut-être qu'AEW, ça se serait réglé à un moment donné. On ne saura malheureusement jamais.
Je pense que c'est beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Là.
Mais peut-être aussi, il s'est excusé maintes fois par rapport à ce tweet.
Puis non seulement ça, il s'est excusé plein de fois. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis pour dire, guys, on parle à ces gars-là, puis ils sont plus comme ça. Ils ont appris.
Oui,
exact. Ils étaient non éduqués à ce que c'était. Puis les gens continuaient. Moi, en tout cas.
Non, exactement. Puis je voulais juste le mentionner comme ça, mais pas mettre l'emphase là-dessus. Je veux mettre l'emphase sur la carrière qu'ils ont eue, les Briscoe. Je pense qu'il faut les considérer comme minimalement une des meilleures équipes des 20-25 dernières années, mais une des meilleures équipes de l'histoire de la lutte.
Je pense c'est Mount Rushmore de ROH, là.
Ah, Ring of Honor, oui, c'était les visages, c'était les poster boys, ouais, en anglais qu'on dirait de Ring of Honor.
Mais
de la lutte en équipe, je parle des meilleures équipes de tous les temps.
Top 10.
Les Briscoes font partie de la discussion, là. Ils ont eu des matchs incroyables. Puis, tu sais, ils sont venus à Montréal trois fois en 2007 avec la IWS. Mark ou El Generico, Sami Zayn, était blessé. Je m'appelle plus lequel, mais il avait fait un combat juste Kevin contre Jay, accompagné de Mark et de Generico. Il était venu en 2008 avec Ring of Honor. Il avait lutté contre Kenny Omega et Kenny King, imagine.
Wow.
Et en 2018, à la FLQ, il avait lutté Aubin et Mathieu contre TDT. Donc, Mathieu Saint-Jacques et Thomas Dubois. Donc, ils sont venus à quelques reprises. Tout le monde avait des bons mots. Tout le monde avait des bons souvenirs de ces visites-là. Et puis, à la Ring of Honor, moi, hier, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé pour la, je sais plus combien de fois, le match entre les Briscoes et Kevin Steen et Al Generico. Ouais. Le match qui a permis à Steen et à Generico de revenir à la Ring of Honor. Ce match-là, c'était un peu un do or die parce que ça faisait quelques années que Ring of Honor les avait pas utilisés. Et ils ont décidé de leur redonner une chance. Et si ça marchait pas, là, c'était fini, là. Il y avait pas de chance à Ring of Honor. Et quand ils sont arrivés, ils ont eu un match incroyable. Moi, j'étais là. J'étais descendu avec eux autres à Philadelphie. Et quand le match est terminé, ils sont rentrés en arrière-scène et Gabe Sapolsky, qui était le booker, leur a dit « Home run, guys, home run ». Et à partir de là, ils ont eu la run qu'on connaît à Ring of Honor. Ils ont eu une rivalité avec les Briscoes. Puis je veux juste prendre la peine de lire deux messages. C'est Kevin puis Sammy qui ont écrit ça. Puis Kevin qui dit j'ai passé des heures à lire ce que les gens ont écrit sur Jamin.
Ouais.
Jamin Pugh qui était son vrai nom. Il dit j'ai même regardé des matchs qu'on a eus ensemble. J'ai même relu des textos qu'on s'est envoyés. Puis il dit j'ai le cœur brisé pour sa famille. Chaque personne de sa famille, parce que ça voulait tellement dire beaucoup pour eux autres. Ils se tenaient, c'était une gang qui se tenait serrée. C'était tous des êtres humains spéciaux qui étaient prêts à donner, à vous donner leur propre chandail, si c'était pour vous aider. Puis c'était ça que Jamin était. Il y a peu de personnes dans cette industrie que je considère comme des gens qui ont influencé ma carrière, qui ont été importants pour ma carrière. Mais je pense que je serais pas où je suis aujourd'hui sans la contribution de Jay et Mark Briscoe, puis il fait référence au match que je vous parle en 2007. Il dit il y avait l'opportunité de faire ou de, tu sais, de make or break, tu sais, de faire ou de défaire deux gars du Canada en se mettant eux-mêmes, qui essayaient de se mettre, qui essayaient en fait de se mettre sur la map sur la scène indépendante aux États-Unis. Puis il dit, je me souviens d'avoir été voir Jay l'après-midi du match, puis de lui avoir dit qu'est-ce qu'il voulait faire. Il dit, je l'avais jamais rencontré avant. Puis il dit, c'était la première interaction qu'on avait. Il dit, écoutez ma question. Il m'a regardé, puis avec un grand sourire, il m'a dit, well shit man, let's go out there and fucking kill it.
Wow, ouais.
Il dit c'est ça qu'on a fait. Puis il dit après ça, ben il dit j'ai eu une carrière à cause du travail que j'ai fait avec les Briscoes. Et puis bon, vous irez voir son tweet là, il continue comme ça pendant quelques pages. Évidemment, dans les dernières années, il lui avait moins parlé, mais il était encore très il le remerciait encore, puis bon, évidemment, souhaitait ses sympathies à toute la famille. Puis c'était un peu la même chose du côté de Sammy, qui dit qu'il y avait pas de mots au moment d'écrire ça pour expliquer vraiment la tristesse qu'il y avait, qui aimait Jay Mark Briscoe, puis qui va toujours aimer Jay, qui est content, puis chanceux d'avoir eu la chance de partager l'arène avec Jay Briscoe. Puis des témoignages comme ça, là, c'était partout.
Il pleut, Biggie, tout le monde.
Partout, Biggie, des gars qui les ont connus longtemps, pas longtemps, qui ont travaillé, tu sais, c'est sûr, il y a des personnes qui ont travaillé encore plus longtemps avec eux autres, mais c'est vraiment, là, presque unanime, les commentaires qui sont sur les réseaux sociaux. Alors, évidemment, au nom de tout le monde ici, on souhaite nos sympathies. Puis bon courage à Ashley, à leurs enfants, en espérant que la plus vieille s'en sorte le plus indemne possible. Une opération au dos, c'est pas jojo. Donc on va souhaiter que tout se passe pour le mieux. Puis Tony Khan a dit qu'il était pour s'occuper de la famille. Puis s'il fait ce qu'il a fait avec la famille de Brody Lee, je pense que les Briscoes sont en bonne main. Puis évidemment, nos sympathies à Mark, son frère, puis à son père, c'est espérant. En tout cas, c'est vraiment très, très triste ce qui vient de se passer. Yeah. Bon, faut...
j'aille tout le temps quand on parle quelque chose de même, là, je sais jamais comment...
Je sais, on va continuer une transition un peu plus smooth. On va parler d'une autre triste nouvelle, mais à un différent degré, c'est-à-dire le dossier Vince McMahon.
Oh, parce que, à un moment donné,
oui, c'est parce qu'il est arrivé bien des choses depuis notre dernier antipode, tu sais.
Il va être là la semaine prochaine, à Raw.
Hein?
Je suis sûr qu'il va être à Raw.
Shit.
Je suis sûr que Vince McMahon va se... Puis tu sais pourquoi? Parce que tu sais la pub qu'ils ont faite, là, pour faire la promotion de Raw 30 sur Blue, by the way, là. Ils mettent Blue, babidi, babubla, Raw est rouge depuis day one. C'est le number, c'est un autre problème. C'est qui commence la pub? C'est Vince McMahon.
Ouais.
Welcome to Monday Night! C'est pas fait pour rien, ça. WWE, ils sont très méticuleux dans qu'est-ce qu'ils font, là. Mm. Ils ont pas fait comme, on va mettre Vince McMahon, personne va s'en rendre compte. Non, 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 on va mettre Vince McMahon, puis check bien, lundi, début de Raw. Pff, tout le monde change de poste puis écoute Raw. Parce que lundi, c'est un gros Monday Night Game. Tout le monde change de poste et écoute Raw.
OK. Écoute, ce que je veux vous dire par rapport à Vince McMahon, c'est que... puis j'ai écrit plusieurs articles là-dessus, vous irez lire sur le tvsport.ca, mais... veux pas, là, malgré ce qui s'est dit, malgré ce qui s'est dit la semaine dernière, comme quoi l'Arabie Saoudite, c'était pas encore fait, puis bon, tout ça... Tout pointe vers l'Arabie Saoudite. Vous me direz ce que vous voudrez. Je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas si t'as lu les trucs que j'ai écrits, mais tout pointe là-dessus. Je vous explique. Premièrement, l'institution financière qui a été embauchée par la WWE pour s'occuper de la transaction, JP Morgan, sur son propre site web, dit que c'est la seule banque aux États-Unis qui a deux licences pour faire affaire avec l'Arabie Saoudite. Donc, le choix n'a pas été fait aléatoirement. Aussi, il y a... tu connais-tu le podcast de Dirty Sheets?
Ouais.
Le podcast de Dirty Sheets, en 2018, au moment où le premier Crown Jewel, donc c'est le deuxième événement de l'entente avec l'Arabie Saoudite, c'était le premier après l'assassinat du journaliste...
Khashoggi?
Oui, exactement. Donc... Crown Jewel 2018, en novembre 2018, les deux gars du podcast sortent des détails sur l'entente entre la WWE et l'Arabie Saoudite. On sait que c'est une entente de 10 ans, ça c'est connu, plus ou moins 500 millions. Mais les gars ajoutent des détails en disant que, selon ce qu'ils ont su, il y a une clause dans le contrat qui dit que si la WWE est mise en vente, dans les 10 ans du contrat, l'Arabie Saoudite a le premier droit de refus sur l'achat de la compagnie. Et à ce moment-là, il n'y a pas eu de... Les sites spécialisés n'ont pas vraiment repris cette nouvelle-là. Probablement parce que personne n'était capable de la confirmer de leur côté à eux. On connaissait pas évidemment les sources non plus de Dirty Sheets. Et Dirty Sheets, habituellement, c'est pas le podcast le plus connu pour breaker des nouvelles, pour divulguer des nouvelles. Donc, ça c'est resté comme ça. Mais là, on est 5 ans plus tard. Et tu te dis, cette nouvelle-là est pas sortie là dans la foulée des dernières semaines, là, parce que là, ça donne de parler de ça. Non, non, non. Ça a été sorti à un moment où on savait même pas que la WWE serait en vente, puis on pensait pas qu'elle serait en vente non plus dans ce 10 ans-là. Et eux autres, ils ont sorti ça. Et là, tu reprends ça aujourd'hui, tu te dis comme, OK, ben oui, tout pointe vers l'Arabie Saoudite. Tu comprends? Il y aurait le premier droit de refus. Il y a une banque qui a été engagée pour travailler, qui travaille avec eux autres. Si on ajoute à ça tout ce qui a été dit, c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite serait volontaire pour privatiser la compagnie, que il accepterait que Vince McMahon revienne en charge. Mm-hmm. Quand on sait que c'est deux des conditions de Vince McMahon pour vendre, ben tout pointe vers là. Il y a un autre groupe qui s'est manifesté également. Puis ça, ce groupe-là, ça a fait jaser. Puis c'est évidemment Tony Khan et son père, Chad. Et là, je me suis presque pogné avec des gens
les
sur
gens
les réseaux sociaux.
Penses-tu vraiment?
Attends une minute.
Non.
Tu penses-tu vraiment quoi?
Tony Khan...
Tombe pas dans le piège, toi, non plus.
Non. Tony Khan, là,
oui.
Il a utilisé l'opportunité de faire parler de sa compagnie.
Je suis pas d'accord.
Moi, je suis d'accord à 100%.
Non. Est-ce que c'est... Attends une minute. Ce qui est sorti, là, c'est... Les Cannes seraient intéressés à acheter la compagnie.
OK.
Toi, là, si t'es numéro 2 dans un field, dans un champ quelconque, peu importe la business, t'es le numéro 2, puis le numéro 1 est à vendre, tu ferais pas ta job si t'étais pas intéressé à acheter la compagnie.
Je comprends.
C'est tout ce qui a été dit. Il n'y a rien qui a été dit qui était pour l'acheter.
Mais c'est pour ça que je te dis. C'est pour ça que je te dis que c'était un coup pour mettre, pour mettre le nom de AEW dans une conversation que AEW n'était pas là.
Mais en même temps, ça fait quoi pour la compagnie de se mettre dans cette situation-là?
Moi, je trouve qu'au contraire, là, ça fait en sorte que yo, moi aussi, je peux. Là. Non, man. C'est de la publicité gratis pendant le laps de 24 heures. Là,
mais moi,
les gens parlaient plus d'Arabie Saoudite. Ils parlaient juste de AEW et de la capacité de AEW
peut-être mais moi, je crois fermement qu'ils sont intéressés. Je veux dire, qui serait pas intéressé si t'es dans le même domaine pis t'es le numéro 2 d'acheter le numéro 1?
Mais je comprends, mais moi, qu'est-ce que je veux dire, c'est que
les deux, ça peut servir aux deux buts.
La seule, tu sais, comme tu dis, ils ont seulement dit qu'ils étaient intéressés.
Mais ils ont dit qu'ils étaient intéressés et ce qui est sorti, c'est qu'ils seraient aussi, il y aurait pas de problème à reprivatiser la compagnie. Ben, c'est ce qui est sorti.
Tu sais, mettons dans le sens que, qu'est-ce qu'ils ont dit fermement, là, c'est qu'ils étaient intéressés. Puis quand tu fais juste
Tony Khan a dit cette semaine que c'était trop tôt pour parler du reste des détails de ça.
Mais, tu sais, mettons, dans le sens qu'on reste tellement vague qu'on en parle pareil, puis qu'après ça, on peut en faire des nouvelles, puis on peut. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un move parfait de AEW.
OK, mais en même temps, moi, je pense sincèrement que chaque Khan regarde les possibilités.
Mais 100%? 100%?
Non, mais parfait. Mais donc, ça veut dire que, à quelque part, oui, je comprends qu'il y a peut-être un move PR là-dedans, mais c'est pas comme si il regardait pas la possibilité non plus. Maintenant, Shad Khan vaut 11,3 milliards.
Ouais.
La compagnie va se vendre entre 7 et 10.
Ouais.
Lui, tout seul, il peut pas l'acheter.
Il peut pas l'acheter tout seul.
Fait qu'il faut qu'il y ait un consortium.
C'est ça.
La même chose qu'Endeavor. Endeavor fait partie des acheteurs potentiels. Endeavor qui est propriétaire du UFC. La compagnie vaut à peu près 11-12 milliards. Ouais. Donc, eux autres aussi, ils sont pas capables de l'acheter eux-mêmes. Ça prendrait un consortium. Tandis que Comcast, propriétaire d'NBC, vaut 164 milliards. Eux autres, ils ont pas besoin de personne d'autre pour l'acheter. Surtout qu'ils ont déjà investi pas mal d'argent dans la WWE. Ce serait, là, avec l'Arabie Saoudite, Comcast, l'Arabie Saoudite et Endeavor, ce serait les trois qui seraient les plus propices à acheter la compagnie selon les différents experts.
Puis tu sais, ça dépend, là, parce que tu sais, on parle beaucoup que Shad Khan, avec tous les problèmes avec les fans des Jacksonville Jaguars, on parle beaucoup que Bob va peut-être vendre l'équipe.
Mais là, ça va bien, il fait le deuxième tour du tournoi éliminatoire.
Ouais, mais dans ce il va peut-être en profiter pour le vendre pendant que c'est à sa plus grande valeur. Tu sais, il a quand même délaissé cette équipe-là. Là,
mais les Jaguars, il va vendre ça quoi? 2 milliards à peu près?
Oh, ben plus.
L'évaluation des Jaguars est de combien?
Attends.
Parce que ce que je veux dire, c'est que la vente des Jaguars va lui donner plus de liquidité, mais lui permettra pas
3,48 milliards.
Bon, il pourrait la vendre 5 milliards.
Fait qu'il va pouvoir vendre ça 5 milliards.
Bon, 4 à 5 milliards. Et ça va.
En 2022, il y a eu un increase de 21% de l'année. Fait que c'est
le temps de vendre, ça je comprends, mais en bout de ligne, il n'y aura pas plus à 15 milliards d'évaluation boursière pour Khan. Il peut pas plus acheter la WWE tout seul. Ça va lui prendre un consortium.
Non, mais
il va juste être plus. Il va être un petit peu plus lousse. Exactement. Exactement. Il va peut-être pouvoir être propriétaire à 75% au lieu de 60%.
Ouais.
Mais en bout de ligne, il y a quand même. C'est une réalité. Maintenant, est-ce que. Puis c'est là-dessus mon point était. Oui, ils sont intéressés. Mais est-ce que Vince McMahon va vendre sa compagnie à AEW?
Non.
J'arrête pas de faire le gag no chance in hell.
Non.
Tu comprends? Ça arrivera pas.
WWE, c'est 6,65 en date du 17 janvier.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. 6,7. Ça tourne autour de 90$ l'action, donc c'est 6,6, 6,7. Mais on s'attend à ce que la compagnie soit vendue à quelque part entre 7 et 9, 7 et 10 milliards. Tout dépendamment. Puis c'est ça l'Arabie Saoudite aussi. C'est que l'Arabie Saoudite, là, ils ont tellement d'argent qu'admettons que Comcast ou un consortium arrive avec une offre de, je sais pas moi, 8,5 milliards. Ouais. L'Arabie Saoudite va dire, ben parfait, moi je mets un milliard de plus, 9,5. Puis là, les autres vont dire, ben oui, mais nous, on peut pas matcher ça. Tu sais, l'Arabie Saoudite s'en fout, là. Ils valent, leur produit intérieur brut, c'est 1 billion. Ça veut dire 1000 milliards.
Non, parce que je comprends la clause qu'on doit du premier refus, là.
Non, mais
je suis pas mal sûr que les bons avocats de WWE vont être capables de contourner ça s'ils veulent vraiment vendre ça à quelqu'un à Endeavor ils vont être capables de trouver une crosse, là, tu sais.
Peut-être, mais est-ce que Vince McMahon ne veut pas vendre à l'Arabie Saoudite? Moi, je pense qu'il veut vendre, là.
Ben, c'est ça. Là, c'est de la spéculation.
Il y a peu de compagnies qui vont vouloir mettre Vince en charge avec les charges qui pèsent contre lui. L'Arabie Saoudite s'en fout un peu.
Ben, tu sais, en même temps, l'autre affaire, là, qu'il faut juste qu'on soit vraiment conscient, tout le monde, là, c'est que il n'y a pas. Ben, en tout cas, il n'est pas en cours en ce moment, là. Pour.
Il y a des poursuites, par contre.
Mais il y a des poursuites de
c'est juste que le procès n'est pas là encore. Mais il y a des poursuites. Il y a deux poursuites de femmes.
C'est ça. OK, fait que là, mais il n'est pas en cours en ce moment. Là,
ben,
dans le sens que,
non, il attend. Je veux dire.
Mais dans le sens que ça peut se régler avant.
Ça pourrait se régler en cours.
Dans le sens que. Il n'y a pas un procès demain matin, Vince McMahon.
Non.
Fait que. Si Vince décide de régler ça avec ces deux personnes-là avant, ça se peut qu'on n'a même pas la discussion de cours, là. Fait que,
c'est pas impossible. Fait mais c'est pas impossible qu'il y ait d'autres femmes
ça se peut.
Qui le poursuivent ça également.
Se peut. Mais je parle, mettons, juste avec les deux qui se passent en ce moment, ça se peut qu'on se rende même pas à l'étape d'aller en cours quand la vente se fait.
Ça, c'est possible.
Puis ça va faire en sorte que.
Mais la vente, c'est une chose. Mais de le mettre en charge, la compagnie, mais, ça, c'est une autre chose.
Ou quand la vente est faite, puis après, quand vient la décision de le mettre en charge ou non. Ben, ça se peut que la seule affaire qu'on dit, c'est, ou que les gens disent, parce que moi, je dirais pas ça naturellement, mais que les gens disent, c'est, OK, on a passé à travers la tempête, il y en a plus, là, en ce moment, on remet Vince, puis on essaie de faire rouler la compagnie le mieux qu'on peut. Fait que.
Mais je comprends, mais en même temps.
Je te dis pas que c'est ça qui est la bonne chose.
Non, exact.
Mais je te dis juste que je pense que c'est ça qui va arriver.
Regarde comment manipulateur il est, Vince.
Ouais.
La poursuite qu'il y a eu la semaine dernière de certains actionnaires de la compagnie.
Ouais.
Les actionnaires, lui, le blâmaient sur le fait que, comme actionnaire majoritaire, il avait enlevé du pouvoir au conseil d'administration en mettant des nouvelles clauses dans des nouveaux règlements, si tu veux, dans la compagnie, qui permettait à Vince de changer n'importe quel membre du conseil d'administration à sa guise. Et ça, c'est là-dessus qu'il s'est fait poursuivre la semaine dernière parce qu'il disait ça enlève du pouvoir au conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est censé être lui qui s'occupe de gérer ta compagnie. T'sais, c'est pas les actionnaires habituellement qui vendent la compagnie, c'est le conseil d'administration qui agit au nom des actionnaires et pour le bien-être des actionnaires. Et là, quand lui a fait, il a mis ces règlements-là en place parce qu'il s'est dit si jamais moi il arrive un problème puis je suis pas en charge, ben mon rôle d'actionnaire majoritaire que personne ne peut m'enlever va me donner ce pouvoir-là. Mais là, il est revenu à la tête du conseil d'administration. Donc, il n'a plus besoin d'avoir ces règlements-là. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enlevé les règlements qu'il avait mis. Puis il a dit à la poursuite, ben regardez, moi, là, j'ai remis ça comme c'était. Fait que vous pouvez, tu sais, en voulant dire, vous pouvez dropper votre poursuite, là. Vous me poursuivez pour quelque chose que j'ai rétabli. Parce que de toute façon, il n'en a plus besoin. Il est en charge. Il l'a fait juste comme safety net, là, juste pour se protéger. Si jamais il était capable de revenir en charge comme il pensait du conseil d'administration. Fait que, tu sais, c'est ça, Vince, là, en ce moment. C'est toujours pensé. Il y a deux coups d'avance. C'est une game d'échecs qu'il joue en ce moment. Puis, moi, en tout cas, moi, là, si j'avais à mettre de l'argent sur un acheteur, je te le dis, c'est l'Arabie Saoudite, je vois pas comment ça pourrait être quelqu'un d'autre.
Puis, tu sais, en même temps, faut pas oublier, là, il y a aussi le...
Puis, ça va se régler, supposément, d'ici... Le but, c'est que ça se vende d'ici l'été, parce qu'ils veulent que les nouveaux propriétaires, ce soit eux qui négocient la prochaine entente de télévision. Ah. Puis ça va se négocier à partir de l'été jusqu'à l'automne. Donc, il faut, à un moment donné, qu'ils vendent, là, s'ils veulent aller vers la vente de droits de télévision. Pas la vente, mais les... J'en perds mon latin.
Ben, en fait,
vers les droits de télévision.
Juste
fait.
Dire, il y a aussi une partie qu'on parle pas, mais clairement, Vince McMahon utilise les médias pour faire de la négociation aussi. Là.
Probablement.
Puis ça, c'est, moi, je pense que c'est une très, très grosse partie.
Probablement.
Dans le jeu de cartes de Vince McMahon. Fait que ça aussi, c'est.
Puis le départ de Stéphanie, ben, on peut l'expliquer de différentes façons, mais supposément, Stéphanie et Hunter se seraient opposés à la vente de la WWE selon une publication financière et non pas une publication de là, selon une publication financière. Donc, ce qui pourrait peut-être expliquer un peu son départ soudain de la compagnie. Il y a peut-être plus qu'une raison, mais il y a entre autres cette raison-là. Je pense qu'on a fait le tour du sujet de Vince McMahon. Comme je vous ai dit, j'ai un dossier complet là-dessus sur le tvasport.ca. Allez le consulter si vous avez un peu de temps devant vous.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Bon, passons à la bonne nouvelle, parce que t'en as parlé à quelques reprises déjà.
Yeah.
Les antipodes de la lutte reviennent devant public.
La faites-nous pas honte! Non!
Et là, les antipodes, là, c'est toi, moi, pis c'est Fred, là.
Yo! Faites-nous pas honte!
Bon,
okay?
On donne les détails.
Parce que là, j'ai les détails.
Non, non, mais moi, les données, là, je me fais plus confiance à toi, là.
Arrivé!
Tu sais, tu me demandais tantôt, fait que m'a les dire, ça te dérange
mais
pas.
Mais c'est moi qui ai fait le truc!
Ben, c'est ça, mais vérifie si je te donne les mêmes infos que t'as mis sur le truc.
OK? Vas-y.
Donc, c'est à... C'est le 18 février, samedi le 18 février, en après-midi de l'Elimination Chamber. Ouais. Ça se passe au Beer Market. C'est 12-21 René Lévesque West. C'est un gros bar au coin de René Lévesque et Peel, si je me trompe pas. Et c'est à 3 minutes à pied du Centre Bell. Vous pouvez pas le manquer. C'est le Beer Market. C'est de 15h30 à 17h. Les portes vont ouvrir à 15h. Et il y a un prix d'entrée de 10$. C'est pour tout public. Adultes et enfants.
Là, j'en veux pas la un qui chiale sur le prix d'entrée. C'est juste 10$.
C'est juste 10$. On voulait pas. Je le sais, c'est une grosse fin de semaine. Vous avez dépensé beaucoup d'argent pour les billets de la WWE. On vous en demande juste 10$. Puis je pense que.
C'est très fair.
C'est très fair. Puis c'est la première fois à Montréal. On a fait un à Laval, un à Québec. On n'a jamais fait un à Montréal.
Faites-nous pas honte.
Les places sont limitées, par exemple. On peut pas accueillir 500 personnes.
Ça veut dire, dépêche-toi à l'acheter le billet live.
Dépêchez-vous à aller sur le point de vente.
Le point de vente.com
pour acheter vos billets. On va partager ça sur nos réseaux sociaux.
Tape dans la barre de recherche les antipodes live 3.
Tu me dois une bière. Et donc, c'est ça. Les portes ouvrent à 15h. Je le répète, c'est tous âges. Oui, c'est un resto, c'est un restaurant. Il nous appartient le restaurant pendant ces 90 minutes-là. Donc, tout le monde peut venir, enfant comme adulte. C'est 10$ pour tout le monde. On va avoir des surprises pour vous. On sait pas encore quoi. On aimerait ça vous le dire, mais on les sait pas nous-mêmes.
Là,
mais
minimalement, achetez vos billets. Qu'est-ce que tu fais, man?
Kevin et moi, on va être là avec Fred, la légende.
Achète tes billets! Achète les billets!
Venez nous encourager. Achète. 18 février.
Achète les billets!
Hey, ça va être le fun, j'ai
Achète
out.
Les billets!
J'ai out.
Achète!
Ça va? Tu veux prendre une gorgée de Red Bull ou quelque chose?
Non, man, j'ai fucking faim, man.
Donc, achetez. Oui, tu vas demander un double cheese de chez McDo, puis pour une fois, j'ai pas été au McDo.
Yo, mais... achète! Yo, qu'est-ce que tu fais, man? Ben achète oui. Les billets! Va sur le point de vente!
Attends, faites-le, c'est en train de dire aux gens, c'est de peser sur pause, sur leur écoute.
100%!
Les billets et de revenir.
OK, attends. Pèse sur pause. Attends. Rebienvenue aux antipodes de la lutte.
Alors, on va parler
non,
de...
Non, si t'as pas mis pause, disrespectful. Achète des billets.
Hey, je veux revenir sur Mike Bailey à PWG ouais. À Bola. Parce que, premièrement, je suis désolé, là, avec tout ce qui s'est passé la semaine dernière avec Vince McMahon et tout, j'avais complètement oublié de l'ajouter sur le pacing, mais évidemment, j'avais partagé sur les réseaux sociaux et tout. Je veux te parler de statistiques de Mike Bailey.
Okay,
Mike Bailey a lutté 4 matchs dans la même journée dans le tournoi Battle of Los Angeles. Il a lutté pendant 76 minutes 23 secondes. Je te donne les ratings de Dave Meltzer, qui était là en personne, qui était là live. Contre Jordan Grace, 3¾. Contre Sean Skywalker, 4¼. 4¼. Contre Brian Keith, 5¼.
C'est fou, ça.
Contre Konosuke Takeshita, 4½. Dans la même journée, il a fait 4 matchs pour une moyenne de 4,4 étoiles. Arrondissez ça à 4½. C'est complètement fou la performance qu'il a faite cette journée-là. C'est Dave Meltzer en a parlé comme étant l'une des plus belles performances en termes de qualité de lutte qu'il a vue dans une même journée. Ça, c'est un Québécois, Mike Bailey. C'est complètement fou. Le match 5¼, il devient le 3e Québécois à faire un match 5 étoiles et plus selon les ratings de Dave. Après, évidemment, nos boys de 2.0 qui avaient eu Anarchy in the Arena qui avait été un match 5 étoiles. Mais c'est le premier à avoir 5 étoiles et plus dans un match en simple. Alors, c'est pas rien, là. C'est vraiment toute une performance. Émile. Félicitations. Mike Bailey. Ben, c'est correct, on l'a appelé Émile une fois sur le pod. Vraiment, vraiment bravo à toi, Mike Bailey. Tout un Dynamite la semaine dernière, puis il y a plusieurs nouvelles qui sont sorties de ça. Premièrement, le retour d'Adam Cole.
Ben yo, Adam Cole baby a lagué une promo I lost my smile, pis après ça il est ressorti avec un promo, c'était malade là. Il a bien fait ça, je suis content,
c'était
man.
Toute une promo.
Pis, c'était une belle surprise.
Tu sais, on en a parlé la semaine dernière, puis j'écoutais sa promo, je nous trouvais sévère. Tu sais, on a dit la semaine dernière que c'était un échec.
Non, 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 non. C'est pas ça que j'ai dit.
Qu'est-ce que t'as dit?
J'ai dit les patinés ensemble. Les patinés ensemble, c'est un échec. Là, mettez pas des mots dans ma bouche, là. Moi, je veux rien dans ma bouche, là. Les patinés ensemble, c'est un échec.
Je serais curieux de réécouter, parce qu'à un moment donné, je pense que t'as parlé d'Adam Cole.
Oui, parce que j'ai dit, mettons, Adam Cole, échec. Oui. Bobby Fish, échec.
Bon.
Kyle O'Reilly, échec. Mais c'est eux ensemble.
Okay.
Adam Cole n'est pas un échec. Il a gagné le Owen Hart Cup.
Oui, puis en plus, il a été blessé, là. On l'a pas vu depuis le mois de juin à cause d'une blessure, une commotion cérébrale. Ça a pas été facile pour lui. Je pense que, je sais plus qui aujourd'hui a dit, c'est Tony Khan qui a dit, vous savez pas à quel point vous savez pas tout ce que nous on sait par rapport à comment Adam Cole a vraiment eu de la misère à revenir de cette commotion-là. À un moment donné, on pensait même que sa carrière était finie. Britt Baker également a partagé quelque chose sur les réseaux sociaux en disant qu'il y a des journées où il pouvait pas sortir de la maison, il était pas autorisé à prendre l'avion, il pouvait juste faire des marches, puis des fois, il marchait juste sur le terrain. Donc, il était très, très fier. Donc, tant mieux s'il va mieux, tant mieux s'il est capable de revenir à 100%. Et c'est le show des EW qui va en bénéficier. On a également des nouveaux champions trio.
Mm-hmm.
Quel match!
Ben, les gens, les... Mais...
D-Elite ont battu...
Est-ce que j'en parle tout de suite?
D-Elite ont battu Death Triangle. Est-ce que c'est ta montée de lait?
Je sais pas. Je prévois pas de montée de lait!
OK, mais là, calme-toi parce qu'il y a un segment montée de lait.
Yo, OK, so, on build... T'es un mieux. Fucking trios match, OK, pour les titres, là. On build ça depuis sept semaines.
Ouais.
Sept matchs. Ça vient du pay-per-view jusqu'à là, OK? On a toutes vu des choses fucked up, là.
Ouais.
Tu vas me dire que t'es pas capable de me laisser plus que 3 secondes des patins avec la ceinture à la fin du show.
Ah, ouais.
Guys!
Ouais.
Guys! On build
attends une minute. Je vais apporter un bémol, là. Ce qu'on sait pas là-dedans, c'est est-ce que les gars, ils ont étiré un peu leur match?
C'est pas mon problème, ça.
Ah, non.
Donne du temps de plus. Ah. Ça me dérange pas qu'on voit les gars courir dans la foule avec les ceintures. Donne-leur, mets un buffer. Parce que c'est tout le temps la même chose avec AEW. Darby Allin, on l'a même pas vu avec sa ceinture quand il a gagné. Il pack tellement son show, le show est serré, il y a rien qui se passe parce qu'on peut jamais voir les célébrations. Puis c'est ça qu'on aime.
Je comprends. Par contre, est-ce que tu es d'accord que ce match-là, ça a été le meilleur match de la série?
100%.
Est-ce que tu es d'accord que c'est la meilleure série 4 de 7 que tu vas avoir vu de ta vie?
mais
en termes de qualité de match,
mais
pour
vrai, je vais pas. Parce que pour moi, je peux pas comparer les deux. Le Booker puis Benoît. C'était vraiment bon, là.
Oui, pis effectivement.
C'est pas le même genre de match. Parce que là, c'était 7 spot-fest, là, l'autre.
Non,
là.
Non, puis il était 6 toujours aussi. Ils se partagent la tâche à 6. Mais c'est quand même une série 4 de 7.
C'était exceptionnel.
Qui va passer aux annales de la lutte professionnelle.
Oui, annales.
Toi, t'as juste gossé sur le mot anal, là. Calme-toi, là. C'est un bébé, estique. C'est un
That's
bébé.
That's dirty!
Tu l'avais pas sorti depuis longtemps, celle-là, Fred. Mais, donc, ça a été tout un match. Très, très, très bonne série. Donc, ça aussi, c'est sorti du dernier Dynamite. FTR prend quelques mois off. Et là, c'est assez, en anglais, on dirait sketchy. Là. C'est pas clair ce qui se passe. Dax Harwood a été dit, ben on a besoin de prendre du temps off. Peut-être que ça va aller jusqu'à la fin de notre contrat au mois d'avril. Moi, ça ressemble à deux gars qui veulent plus travailler là jusqu'à la fin de leur contrat et qui, à la fin de leur contrat,
vont négocier, mettre tout le monde compte. Là.
Vont soit se négocier un meilleur salaire, des meilleures conditions, ou vont juste quitter la compagnie.
Ben moi, je pense pas que c'est deux gars qui veulent plus travailler. Je pense pas qu'ils veulent plus travailler. Je pense qu'ils ont des bobos. Là.
Ils ont besoin d'un break. Pis, ça, je remets pas ça en doute.
Puis je pense que Mais ils comprennent qu'ils ont donné beaucoup à la lutte professionnelle l'année passée. Ils vont réparer leur bobo, puis oups, on va tomber au mois d'avril quand les contrats se finissent.
Ben, exactement, mais c'est parce que sois plus subtil d'abord dans la façon de le dire. Parce que tu peux pas dire, ben, on sait pas pour combien de temps on sera pas là, on a besoin de penser à nous, mais en même temps, ça se peut que ça arrive jusqu'à la fin de nos contrats. Tu le mentionnes pas dans ce temps-là, tu gardes une petite gêne par rapport à
mais
ça.
Mais ça, c'est vrai, là, les gars, mais en même temps, ils savaient qu'ils feraient les dirt sheets en disant ça.
Ben,
ils savent qu'est-ce qu'ils font. Parce que le gars, il vend un podcast en ce moment. C'est un nouveau podcast. Il veut que les gens l'écoutent.
Non,
fait qu'il comprend, il sait ce qu'il fait.
Je comprends, mais en même temps, j'ai juste trouvé ça. Tu sais, je me mets à la place des propriétaires des EW. Puis Tony, je suis comme pas. Je suis comme, oh, come on. T'aurais pu faire ça autrement.
Ouais, mais c'est business.
Ah, c'est business. Je comprends.
Parce que.
Moi, j'ai trouvé ça dommage qu'ils le fassent de cette façon-là.
Quand les gens veulent couper les gens, là, puis qu'ils coupent les gens, t'aurais pu le faire. Non.
Mais moi je pas certain qu'ils vont revenir avec la compagnie.
Je te dis pas que je suis certain qu'ils vont revenir, mais je te dis juste qu'ils vont laisser le contrat aller pour aller chercher plus d'argent puis monter les deux compagnies un contre l'autre.
Dernière nouvelle qui est sortie des EW, c'est que Sting, ça achèverait. Son contrat vient à échéance très bientôt. Et bon, il a laissé savoir un peu que il voulait pas dépasser la limite là, du bon goût. Là. Il veut pas être rappelé. Il veut pas qu'on se souvienne de lui pour quelqu'un qui est plus capable de faire la job. Puis à date, on peut pas dire que sa run à EW a pas été bonne. Il fait très bien, mais il veut justement pas dépasser cette ligne-là. Bon, il a quand même 63 ans. Puis bon, on avait su en décembre 2020, qu'il avait signé pour quelques années. Ben, écoute, ça vient à échéance bientôt, on sait pas quand encore, mais je pense qu'apprécier chaque moment de voyer de Sting à la télévision, parce que ça achève. Je veux rapidement passer avec des nouvelles d'Impact, parce que c'était Hard to Kill vendredi dernier. Mickie James, nouvelle championne.
Ben ouais! Hardcore Country!
Fais plus jamais ça. Mickie James, même Fred en revient pas. Es-tu surpris du résultat? T'avais prédit une victoire de Jordynne Grace?
Ben, je suis surpris parce que moi, je pense que Mickie pouvait continuer. Là. Elle peut continuer. Je pense qu'Impact n'a jamais été aussi chaud comme ça que depuis plusieurs années.
Étais-tu surpris que ça fasse la finale du show? Moi, ça m'a surpris.
Ben, il l'avait annoncé.
Il l'avait pas annoncé. Il l'a annoncé dans la dernière. Dans la dernière semaine. Ouais.
Mais en même temps, le fait que ça fasse la finale, ça nous portait à croire qu'elle allait prendre sa retraite. Fait que ça lui a donné une plus grosse surprise puis un plus gros pop quand elle a gagné. So, c'est une bonne décision.
Personnellement,
c'était tough à follow le Metal Mayhem. C'était très bon le Metal Mayhem. C'était un bon storytelling puis c'était un match violent.
Mais on va en reparler dans les coups de cœur, mais juste mentionner, le match était bon, la finale était bonne, mais j'ai pas aimé le finish.
Ouais.
Je sais pas si tu te souviens, le finish, là, Jordynne Grace se fait faire le DDT de Mickie James.
Ouais.
1-2 kick out. Et là, ensuite, elle reprend le dessus avec une prise du sommeil au sol.
Ouais.
Un collier arrière. Ça a duré 3 minutes, cette séquence-là. La vibe dans la foule a complètement baissé. Les deux reviennent sur leurs pieds. Mickie James dock une charge dans le coin avec l'épaule. Et là, elle fait son DDT. Et elle gagne. Mais juste avant que Jordynne Grace charge vers le coin, il y avait plus un son dans la foule. Fait que j'ai pas aimé le momentum qui nous a amené au finish, parce que ça a fait un peu comme si le finish sortait de nulle part.
Exact.
Donc, j'ai juste pas aimé la psychologie derrière le finish, mais le reste du match était quand même bien, puis t'as raison, Mickie James est encore capable d'en donner. Santino Marella est de retour avec Impact sous le nom de Santino Marella. La WWE n'avait pas soit oublié ou soit ne voulait pas reconduire la licence du nom, et évidemment, Impact a sauté dessus, donc ils ont ramené Santino sous son nom à la WWE. Il va être le directeur de l'autorité du côté d'Impact. PCO a fait son retour également, notre Québécois, qui a craché du sable, parce que si on se souvient, la dernière fois qu'on l'a vu, il était enterré dans le désert. Donc là, il est sorti du désert, puis il est arrivé dans le ring, puis il a craché du sable.
C'est une bonne idée.
Tu dis ça sérieusement ou t'es sarcastique?
Mais non, mais yo, okay. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ils l'ont enterré ou ils l'ont pas enterré?
Ils l'ont enterré.
Bon, ben ça se peut-tu qu'il y ait du sable dans lui?
Ça se peut.
Ils ont enterré le patinet dans du sable.
Il y a juste que juste Carl pour penser à ça.
Ben c'est, moi, je trouve que c'est vraiment intelligent.
J'ai adoré, mais ça surprenait quand même. Il est arrivé puis il a attaqué, évidemment, Eddie Edwards, qui faisait partie de Honor No More avec PCO. Et finalement, ben on a Frankie Kazarian, qui a re-signé avec la compagnie également, donc on ne le verra plus à AEW.
C'est pas qu'on le verra plus,
mais ça sera plus sa promotion principale. Il voulait continuer à lutter, puis évidemment, avec AEW, ben on l'avait un peu mis de côté. Et Rebellion, le 16 avril, sera à Toronto. Donc, pour ceux qui aiment le produit, moins loin pour GF et Marc. Et pour tous ceux qui veulent aller voir Impact Live, ben, Toronto, c'est en canadien, c'est à 5 heures de route, ça se fait bien.
Moi, je prends l'avion, là, mais c'est au Canada.
C'est au Canada.
Pourquoi vous me donnez pas Bayley contre Alexander?
Ah, ben oui, ça pourrait être ça. Hey, les prix de l'année 2022 du Pro Wrestling Illustrated, rapidement. Lutteur de l'année, qui tu penses qui a été? C'est les fans qui votent pour le PWA.
Roman.
La femme de l'année. Et c'est pas la lutteuse de l'année, c'est la femme, parce qu'elle inclut n'importe quelle femme qui a un rôle dans le monde de la lutte. Bianca Belair. La recrue de l'année.
Oh, Solo Sokai?
Non, Hook.
Ah, Hook, ouais.
L'équipe de l'année.
FTR.
Oui, le clan de l'année.
Bloodline.
Oh oui, et Sami Zayn a eu sa plaque du PWI. C'était pour beau à voir. Ouais.
Ah, j'ai pas vu.
C'est le premier Québécois depuis, je pense, Chris Benoit à recevoir un prix du PWI.
J'aime pas. Ouais. Il l'a posté?
Oui, il a posté ça.
Ah, j'ai même pas vu.
J'ai même écrit une chronique là-dessus. Tu lis pas ce que je fais. Le plus populaire?
Roman?
Non. Mox. John Moxley.
Ah, OK.
Le plus détesté?
MJF.
Et le match de l'année? Pense pas Japon, là. Les fans du PWI sont un peu plus nord-américains.
Ben, c'est sûrement les Bucks contre FTR.
WWE.
Ben, pas Gunther contre Sheamus.
Non. Cody contre Seth.
Ah ouais!
Le match à NFL. Okay. Et en terminant, je veux mentionner le départ d'Adam Hopkins.
Oh man! Tu sais qu'Adam, là, c'est le premier dude qui m'a fait confiance à la WWE.
Ah, pour vrai?
C'est le premier dude.
Ah, c'est nice.
Moi, j'écrivais toujours, ben, ceux qui viennent voir mes conférences.
C'était le vice-président des relations publiques de la WWE depuis, il travaillait là depuis 25 ans.
Ouais.
Continue.
So, moi, j'écrivais à toutes les PR de toutes les ligues. J'avais écrit au PR de la NBA, j'avais écrit au PR NFL. Puis les deux seuls qui m'avaient répondu, c'était PR WWE, PR NBA.
Ouais.
Ils m'avaient donné des passes pour la NBA, j'avais été bon. WWE m'avait donné des billets pour WrestleMania dans le pit en haut. Pit en haut. San Francisco. J'avais donné des tickets pour toutes les shows. Puis c'est Adam Hopkins qui avait été mon contact. Puis Adam savait clairement là, que comme mon petit radio communautaire, là, c'était, mais il savait. Puis à chaque fois que j'écrivais, il répondait. Chaque fois, même quand on était dans les sur place, man, il disait, oh yo, what's up?
Tout le temps, moi aussi.
Greatest
Adam,
guy, man.
Adam et Joe Villa qui ont été.
Joe
là,
Villa aussi.
Tu sais, qui est parti il y a quelques années.
C'est fou, hein, ça change vite.
Ces deux gars-là ont été super importants pour moi. C'est des contacts précieux que j'avais à la WWE au niveau des relations publiques. N'importe quand j'avais besoin de billets, j'écrivais à Adam. Il m'arrangeait ça. Hey, même une fois, là, j'étais un peu stressé. Là, j'étais parti à Dallas en 2016. Dallas.
Non, j'étais pas là.
WrestleMania 32.
T'avais pas de billet, machin.
J'étais arrivé à Dallas, puis j'avais pas eu de confirmation ni de Joe, ni d'Adam. Finalement, rendu sur place, les gars m'ont dit, fais-toi sans pas, là. On s'occupe de toi, là. Puis ils sont occupés de moi, là. J'ai pas eu à m'en faire. Mais ils ont toujours été là. C'est Adam qui m'a appelé au mois d'avril. C'est quoi, au mois d'avril dernier?
Ouais.
C'est quand qu'il m'a appelé? Cet été, en tout cas, il m'a appelé là, quand on a annoncé l'Elimination Chamber à Montréal. C'est lui qui m'a appelé pour me dire, hey Pat, on aurait un scoop pour toi, t'es-tu intéressé, on a un embargo, tout ça, on vient à Montréal, blablabla. C'est Adam, là. Pour vrai, c'est lui qui m'a donné la première entrevue de Kevin Owens à WWE. Écoute, pour vrai, il a été précieux. Je lui ai écrit à Adam suite à, bon, il a été congédié de la WWE. On fait beaucoup de changements dans ce département-là. Puis j'y ai écrit, puis j'y ai dit que, tu sais, je le remerciais pour tout, puis il m'a répondu un beau message, puis j'étais content, tu sais, d'avoir eu cette discussion-là avec lui. Même Biggie a écrit quelque chose sur les réseaux sociaux pour parler d'Adam. C'était lui qui nous bouquait les entrevues. Il a été vraiment précieux pour toi, pour moi, pour bien des journalistes également. Sean Rossap, il avait également partagé quelque chose à ce niveau-là. Donc, pour vrai, un départ qui va faire mal, puis on les voit, là. Il y a des choses qu'on peut-être peut-être pas vous parler, mais on le voit, Kevin et moi, il y a un gros changement dans ce département-là de la WWE. Et puis, ben écoute, il va falloir se faire des nouveaux contacts, mais ça sera pas... ça change beaucoup, puis ça change vite. Lutte québécoise.
On recommence.
Lutte québécoise.
Laissez pas tranquille. Laissez pas tranquille.
Hey, je veux revenir sur Kick-Off de la NSPW, le premier show de l'année. On a renversé une décision. Kevin Blanchard avait terminé l'année champion. Et on a renversé la décision parce que le clan Matt Falco a montré une vidéo comme quoi Kevin avait frappé Matt Falco avec une ceinture. Alors, le directeur exécutif Michael Starr a renversé la décision de décembre. Et Matt Falco est revenu champion de la NSPW.
Moi, j'ai de la misère.
C'est un move
avec...
heel.
Je sais.
Mais oui, qui peut être des fois... Moi, c'est un dusty finish, là.
Non, mais fait que moi, j'ai de la misère avec impliquer la vidéo dans le monde de la lutte. Parce que les heels, leur job, c'est de tricher.
Ouais.
Puis que là, si tu mets la vidéo, un heel devrait toujours gagner en trichant. Ouais. Il devrait toujours, ça devrait jamais être, même si c'est un jobber, man, tu devrais gagner en trichant. Puis là, si tu mets la vidéo là-dedans, ça veut dire que tu mets dans le problème tous les arbitres, là.
Je comprends. Je pense, moi, c'est quelque chose que tu peux utiliser une fois à l'occasion.
Non.
Faut pas que tu
l'utilises une fois, pourquoi tu le réutiliserais pas?
Non, je te dis le dusty finish.
Ah, le dusty, ok, je pense pas à la vidéo.
Non, le dusty finish, c'est quelque chose qu'il faut que tu utilises avec parcimonie.
Parcimonie, bro.
Parcimonie. OK, je me suis... ça va vite dans ma tête, moi aussi, faut le croire. Mais parcimonie, merci. Wow, comment ça tu connais ce mot-là?
Ben parce que je suis intelligent, man.
Non, parce que tu as commencé à travailler à Radio-Canada. Mais...
Ça fait longtemps que je reviendrai. J'ai fait « On va se le dire » aussi un matin.
Ah, good.
J'ai fait « On va se le dire », j'ai fait « Véro », puis là, je suis ici. What a fucking day.
Claude Malhoun a fait « On va se le dire » la semaine dernière.
Ah ouais?
Oui.
Ah, c'est nice.
Ouais,
comme
exact.
Participant ou invité?
Comme invité.
Pour vrai?
Ben oui, absolument.
Il
a parlé de 3 secondes. Il a parlé du documentaire 3 secondes.
Comme
invité. Ah, ben
nice, oui. Je suis content pour lui.
Ben oui. Marco Estrada était à Paul Arcand ce matin. Mais pour vrai, je suis content qu'il y ait des gens qui puissent parler de lutte intelligemment. Là.
Ah, moi, je veux juste qu'on prenne tout le crédit. Fuck that.
Ben, c'est correct. En autant que l'ancien champion intercontinental de la WWF le prenne pas, moi, je suis correct.
C'est qui ça, l'ancien champion intercontinental? Le monsieur.
Le monsieur qui s'habillait en gendarme de la GRC.
Ah
là.
Oui, en rouge, là?
En rouge.
Avec le chapeau.
Hey, Kevin Blanchard...
Ses initiales, c'est GR?
Oui, mais c'est pas Jim Ross. Kevin Blanchard a battu Ivan Sullivan. Untouchable a battu Salt Shore Wrecking Crew. Matt Taven était là. Matt Taven de AEW qui a battu Alex Silva. Et Silva l'a attaqué tout de suite après le match. Donc, c'est pas fini entre ces deux-là. Il y a également les champions par équipe, les Wonder Boys, avec Leon Saber qui ont battu, et j'adore le nom, le tabarnak de trio. Ça, c'est TDT avec Benjamin Toll.
Ah, c'est bon, man!
Ça, j'aime ça.
C'est vraiment bon.
Ouais, et Travis Toxic a battu Pee-wee.
Le jersey est où?
Je sais pas, Zach Patterson et Lou O'Farrell, il n'y a pas eu de gagnant.
J'ai
c'est
vu.
Un décompte à l'extérieur.
J'ai vu,
pour
j'ai vu qu'est-ce que Zach a fait à Lou. Zach! J'ai vu qu'est-ce que t'as fait à Lou, Zach! Zach! I am playing with you, man! Zach! Pour de vrai, j'ai vu ça, puis je commençais à être hot, là.
Michel Plante et Stu Grayson ont eu le dessus sur Steven Sullivan et Matt Falco, et on a fait deux annonces. Le 11 février, un 2-3 pour les titres Untouchable, Matt Angel et Marco Estrada contre les Wonder Boys. Et puis, on a également fait une annonce le 17 juin, Golden Opportunity 13, au Stade Canac, et on a annoncé la présence de Gangrel.
Tout.
Femme fatale, rapidement, on a fait 3 autres annonces cette semaine. Cissy Moss, une lutteuse de l'Ontario. Jodie Threat, qu'on a vu à AEW, celle qui avait affronté Athena.
Ouais.
Tu sais, Athena là, avait été assez violente avec elle. Et Cissy Galavis, qui vont être également là. Et je vous donne un petit scoop. On annonce ça. Vous allez l'écouter. On l'annonce dans quelques heures.
Scoop!
Femme fatale va être présentée live sur IWTV.
No way!
Independent Wrestling TV. Tu vas pouvoir l'écouter.
Fait que faut que je l'achète ou comment ça fonctionne?
Faut que tu t'abonnes à IWTV.
Okay.
Si vous vous abonnez, au moment de check it out, vous devez rentrer un code promo pour nous encourager, nous, FF24. Si vous rentrez le code FF24,
là, texteras,
vous allez nous encourager, nous, au moment de checker out là, de votre abonnement. Et puis, on va également avoir les archives des 4 derniers shows qu'on a fait.
C'est Femme Fatale 20 que vous êtes là-dessus.
À Femme Fatale 23. Donc, les 4 derniers shows vont être également disponibles sur IWTV. Merci beaucoup, Kev. Et on a d'autres annonces à faire au courant de la semaine et la semaine prochaine. Et finalement, 3 secondes, Historia. Historia est débrouillé jusqu'au 31 janvier. Là. Fait, écoutez 3 secondes, vous n'avez pas d'excuses. Si vous avez Elix, si vous avez Belle, Historia est débrouillé. Donc, écoutez 3 secondes, c'est les mercredis soirs à 21h30. Le troisième épisode est là, mais bon, on est demain quand vous nous écoutez. Mais ça passe en reprise. Écoutez, c'est une belle série documentaire. Puis je pense dans le troisième épisode, c'est là que t'arrives, Kev. Troisième ou quatrième, c'est là que t'arrives.
Care dans le building!
Hey, rapidement, les coups de cœur. OK, Zane Owens, les Usos, là, c'était tellement parfait. Puis moi, j'ai aimé qu'ils ont trouvé une façon de faire fâcher Sammy.
Ouais.
Tout en mettant over le bloodline. Parce que quand ils sont intervenus, tu voyais que Sammy était pas content, il était capable de faire la job lui-même. Il l'avait, là, il était dans position pour le hell of a kick. Et puis, as-tu remarqué que Sammy a toujours l'air inquiet quand arrive quelque chose à Kevin? J'adore l'acting dans cet angle-là.
Non, mais Sammy et Kev font très bien. En fait, Sammy et Kevin sont en train de porter Raw et SmackDown.
Absolument, absolument. Jimmy Uso et son accent et son imitation de Conan, là, quand il a parlé à Dom, là, je pleurais ma vie.
Yo, il me fait tellement rire, Dom, là.
Prison Dom!
Prison Dom, là.
Hey, puis as-tu remarqué? Il y avait Prison Dom qui parlait à deux gars qui ont legit déjà été arrêtés, eux autres.
Je sais! Parce qu'à un moment donné, il dit, ah, tu sais pas c'est quoi être dans le pen? Puis l'autre, il part à rire un peu, puis il dit, oh, I know! Mais comme pas dans le micro! C'est fucking bon.
J'ai adoré que Dom parle de son temps, justement, au pen. Mais là, je veux voir un match entre Rhea Ripley puis Solo Sikoa.
Ok, bro.
Je veux voir ce match-là.
Bro. Rhea Ripley est badass. Rhea Ripley, c'est ma MVP du côté des femmes cette année, en ce moment. Rhea Ripley est all over the place, est malade, puis elle a même pas besoin de se battre. Elle a plus de aura que China l'avait.
Oh shit, gros statement. J'ai adoré aussi le spot où Austin Theory descend de la table, il est pris à la gorge par Omos, puis il positionne Omos pour le curb stomp de Seth Rollins. J'ai adoré comment on a fait ça. AEW, Kang Jong était là. Il y avait une couple de vedettes.
Ben oui, c'est à LA, j'espère que les vedettes, là.
Il y avait Freddie Prinze Jr.
Ouais.
J'ai aimé la promo d'MJF, l'interaction qu'il y a eu. Puis le gars de Cobra Kai, le gars qui t'a écouté la dernière version de la dernière saison.
T'as pas fini.
Mais il est là, je me rappelle jamais de son nom, là. C'est le gars de Cobra Kai. Je peux-tu trouver son nom rapidement? J'imagine que non. Puis là, vous êtes tous en train de me le me le crier aux oreilles. Mais bref.
Pas moi, là.
Mais non, visiblement. Mais je vais probablement leur trouver son nom. Bref, cet acteur-là était là. Également, il y a un acteur de Cobra Kai. Bref, c'était... j'ai bien aimé qu'on fasse une interaction avec ces vedettes-là. Masha Slamovic. J'ai bien aimé Masha Slamovic. Ouais. Masha Slamovic du côté d'Impact. Puis, ben, je vais terminer avec Dynamite. Ça a été un bon Dynamite.
Tout était bon.
Moxley Page, la promo d'MJF, Danielson, Takeshita, Hater avec Britt contre Saraya et Storm. Saraya était bien meilleure qu'à son premier match. Elle a encore un peu de rouille, mais elle était bien meilleure qu'à son premier match, ce qui est normal. Puis évidemment, on a déjà parlé du combat trio. Donc pour vrai, ça a été bien le fun. La montée de lettre, Kevin. La montée de lettre, K.R. On joue ça. La montée de lettre, K.R.
Tabarnak.
J'adore, Fred.
OK, so, mettons, là. On jase, là.
Ouais.
Qu'est-ce que Dolph Ziggler a fait dans la dernière année pour mériter d'avoir une chance d'être dans le match à 6 chemins d'élimination? Qu'est-ce que Dolph Foot fucking Ziggler, arrêtez de m'appeler, a fait dans la dernière année pour avoir une chance d'aller pour le titre des États-Unis?
Je sais pas.
Sweet fuck all! Le gars, la semaine dernière, il a mangé une calotte dans le visage. Il est resté là, il a regardé le patinet. La semaine d'après, avant le match, il mange un coup dans les parties par Mustafa Ali. Qui Mustafa Ali, c'est le biggest bitch of them all. Là. Il attaque, fout solo Sokai par en arrière, puis finit par perdre le match quand même. Qu'est-ce que Dolph Ziggler a fait pour mériter d'être dans ce match-là?
Les avertissements.
Non, mais je peux plus!
Avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives.
Ça sert à quoi je regarde le show? On peut pas builder d'autres personnes? Amène-moi quelqu'un de NXT. Amène-moi Axiom. Je serais plus excité de voir Axiom que Dolph Ziggler. Okay. I'm into the world! I'm into fuck, shut up!
Alors, j'ai retrouvé le nom, le gars. Le...
Puis mettons, là, OK, dans le match, là, OK? Dans le foot match à élimination de 6, là.
Oui.
À quel point Dolph Ziggler a l'air d'un imbécile? Parce qu'à chaque fois qu'il fait un finisher, quelqu'un le pète, puis il peut pas faire le pin. J'ai-tu juste continué sur Dolph Ziggler?
Non.
C'est un de mes préférés all time, Dolph Ziggler. All time! Mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter sa place-là? Le gars a refusé d'être en équipe pour une chance pour le tag team belt avec Mustafa Ali, mais là, il y a une chance pour le titre des États-Unis tout seul. Bruh.
Le personnage...
Solo Sokai! Solo Sokai! Qui bat tout le monde! Le partner bat tout le monde depuis le début de l'année! Pourquoi il est pas dans ce match-là? Pourquoi Rey Mysterio est pas dans ce match-là? Oh, il est à SmackDown, my bad.
Le personnage de Cobra Kai, c'était Stingray. Et le nom de l'acteur, c'était Paul Walter Hauser. Raw complet. Raw, là, ça a été difficile, je trouve, cette semaine. Il y a bien des choses que j'ai pas aimées. Là, peux-tu m'expliquer quelque chose, Kev?
Que Dolph Ziggler dans le six-pack fucking challenge.
Pourquoi les Usos, soudainement, doivent défendre les titres séparément, là, de Raw et SmackDown?
Mais ça me dérange pas, parce que si la stipulation, c'est ça, c'est ça.
Mais pourquoi on leur enlève, les titres unifiés?
Ben, parce que là, on va donner un belt à Raw, là. Moi, ça me dérange pas, ça.
Moi, j'ai pas aimé. Cody Rhodes. Ouais. On pouvait pas l'avoir comme surprise au Rumble.
Mais non, j'aime qu'on l'annonce d'avance. On le savait tous, anyway.
Mais c'est pas grave, ça. C'est quoi les moments mémorables des Royal Rumble qu'on se souvient? Mais c'est des retours pas annoncés.
Ouais, pas annoncés, pas avec des vignettes pendant quatre semaines avant, là.
Ben, je comprends, mais...
Toutes les surprises du Rumble avaient pas de vignettes avant.
Ben,
les vignettes faisaient en sorte que tu le menais vers le match au Royal Rumble.
J'aurais pas voulu avoir de vignettes d'abord.
Ben non, moi, je suis content d'avoir des vignettes parce que là, tu fais comme, ah, ben, c'est une raison de plus pour regarder le Royal Rumble.
Ça
Cody prenait-tu White,
vraiment
là?
Une raison de plus?
Il y a des gens qui vont regarder le Royal Rumble parce que Cody est là.
Moi, je pense que Cody... J'espère qu'ils ont une surprise pour le Rumble. Parce que s'ils n'ont pas de surprise... Non, une vraie surprise. Pas genre Great Khali qui revient, là.
Mettons là.
Souris, mais avoue que ça se pourrait.
Mettons là.
Ben, peut-être pas Great Khali.
Le corridor, bon. Là. Mettons, je suis au Centre Bell.
Oui.
Puis là, après ça, je passe pour aller acheter des bonbons.
Oui.
Fait que je passe dans un corridor, là.
Oui.
S'il y a de la fumée qui sort du corridor, puis il y a une lumière bleue, là.
Oui.
On appelle la police, là.
Oui.
On reste pas à fixer le fucking. La fumée avec la lumière bleue.
Non.
Puis qu'il y a un patinet avec un chapeau qui danse, puis là, t'es hypnotisé. Fuck, man! Cette affaire-là est shit!
Alexa Bliss.
Je suis plus capable, man! Alors, Alexa Bliss dans le KOD. Au pire, si t'es hypnotisé, fais ton KOD puis regarde le trou après!
Moi, c'est sûr que je suis plus capable. Braun Strowman. Il peut pas vendre si sa vie en dépendait. Les commentateurs, à un moment donné, ils vendaient sa blessure à l'épaule. Lui, il vendait pas les commentateurs, il vendait plus
que lui. Il sait même pas qu'est-ce qu'il fait! Il sait même pas il est où!
Je pense qu'à un moment donné, il a vendu la mauvaise épaule. Je te niaise même
il
pas.
Il sait même pas il est où!
Dans son combat contre Gunther.
Il sait même pas il parle à qui! Il sait même pas son nom!
Cathy Kelly, là, elle interview le Judgment Day.
Cat, laisse ma gueule tranquille, là.
Alpha Academy arrive, pis elle fait juste crisser son camp! Elle fait comme, l'entrevue est finie, moi je m'en vais.
Non, moi je respecte ça.
Voyons, on reste là.
Moi je respecte ça.
Bully Ray pis Josh Alexander, une ouverture de pay-per-view.
Moi, j'ai
pas trippé.
Ben, c'est parce qu'à la fin, c'est que si t'es pour mettre Mickey à la fin, pis moi je suis content parce qu'ils veulent mettre la face sur la lutte féminine.
J'ai rien contre le fait de faire finale. Tu peux pas mettre
dans le milieu.
Bully pis Josh?
Tu peux pas mettre Bully pis Josh dans le milieu.
T'es en demi-finale. Tu mets tes combats de championnat.
Non,
à la
non,
fin.
Les filles peuvent pas follow ce match-là. Là. Ça aurait été un détriment à ce match-là.
Ça n'a pas été un match si extraordinaire.
Non,
que
mais
ça.
C'est quand même un match avec plein d'échelles, poubelles, avec toute la storyline. Les matchs qui ont suivi ce match-là mais, ont eu beaucoup de misère à s'en remettre.
Ben peut-être, mais moi j'ai pas aimé. J'ai pas aimé le fait qu'on ouvre avec ça. Puis je te dirais, ton histoire de mettre Bully Ray champion, ça a pas. Bully Ray, là, après moi, là, c'est fini. Là, l'angle était là, puis là, on passe
non,
à d'autres
choses.
Non,
mais il a fait son 3 mois, puis il avait dit.
Puis, on lui a même pas donné une finale de pay-per-view.
Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas impressionné.
Hey, je veux dire, j'ai écouté le show en français et je dois mentionner le son des promos backstage, puis des entrées, puis du son de la foule, c'était vraiment mauvais. Les gars le savent.
C'est
pas de leur faute. Ils ont déjà communiqué l'information parce que je suis pas le premier à leur dire.
À la fin de la journée, là.
Puis en plus, on a même pas présenté les gars à l'écran. Fait que, t'entends mal la foule, puis tu sais, tu présentes pas les gars à l'écran, alors ton feel international, il est où si tu prends pas la peine de présenter les gars? Ouais. Fait que j'ai comme un peu moins aimé cet aspect-là, mais les gars, ils ont livré la marchandise, comme à chaque fois. Nostradakev. Qui seront les prochains champions trio et EW?
House of Black.
OK. Ouais. Et puis, qui sera la prochaine championne féminine Impact?
Féminine Impact.
Qui va battre Mickey?
Slamovic.
Oh, Slamovic, j'aime ça. Quiz. Le quiz de notre ami Jérôme Jacques de Bold J. Écoute, il nous demande où apparaîtra Vince McMahon en premier en personne à la télévision pour son éventuel retour entre Raw ou SmackDown?
Raw, la semaine prochaine!
Raw is 3X, là?
3X, blue, blablabli, blablabli.
Quelle est votre prise préférée de Kevin Owens entre le Cannonball ou le Frog Splash?
Frog Splash, c'est beautiful.
Frog Splash, moi aussi. Par contre, ma prise préférée de tous les temps, c'est le Package Paul Driver de Kevin. Quel a été votre match préféré des Briscoes et FTR entre le Dog Collar ou le Two Out of Three Falls à Dead Before Dishonor 2022.
Le Dog Collar match.
Le Dog Collar également. C'est déjà tout pour nous.
N'oubliez pas d'acheter des billets
pour le podcast live le 18 février. Venez nous voir, Rivière-du-Loup, pour la force de Montréal. Bush Bouchard, sans restriction, mes chroniques sur TVA Sport. Au nom de Fred Poirier, celui qui est Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade et je vous dis à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.
Si ça tente pas de jouer, je joue pas.
Qui ça?
Buffalo Bills.
Comment ça?
C'est déjà 4-0, une période. Come on, hey.